Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis ravie de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence 7 pour cette émission sur le conte que vous connaissez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter des contes de chevaux. Je les ai trouvés dans un bouquin chez Albin Michel Jeunesse. Et on commence tout de suite avec un conte berbère qui s'appelle « Lumière du désert ». Il y a maintenant fort longtemps, un homme et une femme vivaient dans une ville en bordure du désert. Ce couple était très malheureux parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, la femme part au marché, elle s'arrête devant un étal d'oranges. Et d'entre les paniers, une vieille glisse son regard pénétrant vers elle et lui dit « Je t'offre cette belle orange. Si tu la manges, un enfant te naîtra. » « Merci, merci, donne-la-moi, je la dévore immédiatement. Attention, je te la laisse à une condition. » Si tu mets au monde un garçon, il est pour toi. Mais si c'est une fille, tu devras me la remettre lorsqu'elle aura 6 ans. Marché conclu. Encore merci. Mais n'oublie jamais ta promesse. Tu as entendu? La femme épluche et déguste l'orange tout en pensant, si c'est un garçon, il reste auprès de moi. Si c'est une fille, ah, ce sera sûrement un garçon. Bientôt, son ventre s'arrondit. Au bout de 9 mois naît une belle petite fille, qu'elle nomme Aïda. La femme et son époux sont très heureux. La mère réfléchit à tous les stratagèmes pour garder sa fille. Et à son mari, elle avoue le marché passé avec la vieille. Celui-ci décide d'entourer leur maison de hauts murs et d'un solide portail. Et la petite grandit derrière ses remparts. Bientôt, l'enfant ne pense qu'à sortir, qu'à voir la rue et les autres enfants qu'elle entend parler, rire et jouer. Lorsqu'elle fête ses 6 ans, ses parents l'enferment à l'intérieur de la maison. Puis un jour, dans le quartier, la mère aperçoit la marchande d'oranges. Elle se sauve en courant et rentre chez elle affolée, si affolée qu'elle en tombe malade. Aïda en profite pour se faufiler hors de la maison et courir dans la ruelle. Sur la première place, la vieille la saisit, l'enferme dans son grand sac rouge et s'envole avec elle vers le soleil couchant. Elle libère la fillette dans une grande cour, entourée de bâtisses de terre ocre, au cœur du désert. « Désormais, tu seras ma servante. Tu iras au puits, tu feras le ménage, la lessive, tu cuiras le pain dans le four, tu prépareras mes repas. » Aïda pleure. Elle pleure ses parents, comprenant vite qu'elle n'a aucune possibilité de s'échapper. Alors de son mieux, elle exécute son dur labeur, et les années passent. Aïna s'ennuie, mais ne sait toujours pas comment se sauver de ce lieu perdu. Devenue grande, elle inspecte les divers bâtiments, toujours fermés à clé. Et ce matin-là, devant l'un d'eux, elle entend des sanglots. Alors contre la porte, elle murmure « Qui pleure ainsi ?» Et à son grand étonnement, on lui répond « Je suis un prince. Je me reposais dans une oasis. La sorcière a tendu une branche à mon cheval et nous a capturés tous deux. Prenez pitié de moi, je suis épuisée, affamée, désespérée. Je vais tenter d'avoir les clés de ta prison, je peux t'aider. Moi aussi j'ai été enlevée quand j'étais petite fille. Mais toi qui es libre, essaye de retrouver lumière. C'est le nom de mon cheval qui doit être quelque part, enfermé comme moi. Je te le promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Elle examine chaque porte. Devant l'une d'elles, Aïda entend des ruades. « Oh cheval, doux cheval, prends patience, je vais bientôt te libérer. » Les bruits de sabots se calment et l'animal hennit. « Il appelle au secours, pense la jeune fille. » Aïda reprend alors son travail avec ardeur et zèle. Et au retour de la sorcière, elle l'examine et entrevoit à son cou le collier de clés. La sorcière dévore le repas qu'Aïda lui sert. Rassasiée et fatiguée par ses courses lointaines et par ses méfaits, elle se couche et s'endort. Aïda attend. Lorsqu'elle entend les ronflements de la sorcière avec une extrême douceur, elle lui ôte son collier de clés et court les essayer. Elle ouvre les portes derrière lesquelles sont enfermés le jeune prince et le cheval. Elle les trouve tous deux à bout de force. Très vite, elle les enferme de nouveau, promettant de revenir les nourrir rapidement. Après avoir enlevé les deux petites clés, elle remet la chaîne au cou de la sorcière. Dès son départ, le lendemain matin, Aïda court porter un copieux déjeuner au prince. Ayant réussi à voler de l'avoine, elle la dépose dans un panier devant Lumière, le cheval. Et chaque jour, elle cuisine abondamment. Ainsi, le jeune prince reprend des forces. Et grâce aux rations d'avoine, l'étalon redevient le fringant alezan qu'il était avant sa capture. Chaque jour, durant l'absence de la sorcière, elle se rend auprès du garçon et tous deux préparent un plan d'évasion. Un matin, après l'envol de l'horrible sorcière, le prince sort Lumière de l'écurie. Il grimpe sur son dos et aide Aïda à s'asseoir derrière lui. Avec fougue, le cheval s'élance dans le désert, guidé par son cavalier vers la cité où règnent ses parents. Lumière galope, 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 avec force et régularité. Mais soudain, Aïda aperçoit dans le ciel la sorcière qui vole à toute vitesse vers eux. Au prince, elle hurle « Nous sommes perdus !» Alors celui-ci crie à son cheval « Mon cheval, Lumière, va à Bride abattue et sauve-nous, sauve-nous » Lumière entend ces mots. Lorsque la sorcière descend vers eux, l'étalon se cabre et laboure le sol de ses sabots. Les cavaliers se maintiennent en équilibre instable. Soudain, s'élève une haie de piques sur lesquelles s'accroche la sorcière qui hurle de colère de n'avoir pas réussi à capturer les fugitifs. Le cheval reprend son équilibre, s'ébroue et galope, galope, galope de nouveau. Sans s'autoriser aucune halte, ils vont vers la ville tellement désirée. Mais le soir, la sorcière réapparaît. Le prince et Aïda supplient Lumière d'avancer ventre à terre. Lorsque la sorcière s'apprête à poser la main sur eux, le cheval ombrageux se retourne et hennit avec rage. Une chaîne de montagnes pierreuses encercle et enferme la sorcière. Après quelques tapes affectueuses pour remercier les talons, le prince et Aïda repartent, espérant bientôt apercevoir une oasis. La nuit tombe. Lumière est fourbue. Il trotte, puis il avance au pas. Mais dans le silence du désert résonnent les cris triomphants de la sorcière. Les deux cavaliers se croient perdus. Elle se rapproche d'eux. Alors devenue sauvage, Lumière, le cheval, se met à tourner sur lui-même avec fureur. Et bientôt, la mer envahit le sol. Des vagues montent vers la sorcière qui disparaît derrière une crête d'écume. Sur le sable mouillé, Lumière reprend un trou enlevé. Sa robe alezane brille de sueur dans la nuit. Bientôt, le prince et Aïda distinguent les premières maisons éclairées au feu des chandelles. Ils grimpent vers le château. Reconnaissant les hennissements de Lumière, le roi et la reine sortent et accueillent leur fils et Aïda avec bonheur. Des larmes de joie coulent des yeux de tous les habitants du château. Aïda raconte son histoire. Le lendemain, un émissaire part à la recherche de ses parents. En attendant, Aïda demande à se retirer et elle est confiée à un vieux couple qui n'a jamais eu d'enfant. Ils la traitent comme leur fille bien-aimée. Le prince vient souvent lui rendre visite et tous deux font des promenades le long des dunes qui entourent le château. Une année plus tard, l'émissaire revient, accompagné des parents d'Aïda. La joie est totale. Ils s'établissent dans la ville afin de vivre le plus loin possible de la maudite sorcière. Bientôt, le prince, qui aime Aïda, la demande en mariage. Ses parents et elle acceptent. Durant 7 jours, on fête les noces et l'accession au trône du prince et de la princesse. Ils feront régner la liberté et la justice et auront de nombreux enfants. Quant à Lumière, il sera nommé cheval royal, soigné et aimé, comme il se doit. On continue avec une histoire qui s'appelle « Le secret du grand mulet ». Un soir, un lion particulièrement vorace et sans cesse affamé, mais trop paresseux pour aller chasser, demanda à ses fils d'appeler tous les animaux vivant sur son territoire. « venez tous, notre père le roi exige que tous ses sujets se présentent devant sa tanière immédiatement !» Aussitôt, insectes, fauves, reptiles, animaux domestiques, animaux sauvages, tous accoururent chez le lion, en tremblant de peur. « Je dévorerai ceux d'entre vous qui n'oseront pas me dire le nom de leur père !» déclara le lion. « Commence par toi, rusé. Qui est donc ton père ?»«
Le chacal, mon roi, pour vous servir !» dit l'animal en s'inclinant respectueusement devant le lion.
« Et toi, crinière au vent, qui est ton père ?»«
Le cheval, mon roi, pour vous servir !»
« Voyons, voyons, poursuivit le lion, toi, barbiche blanche, sais-tu qui est ton père ?»«
Bien sûr, mon roi, je le sais, mon père a pour nom le bouc. »«
À ton tour, boule de piquant, dis-moi qui est ton père ?»«
Le hérisson, mon roi, pour vous servir. »
Défila ainsi une cohorte d'animaux. Buffles, éléphants, panthères, gazelles, veaux et moutons, chiens et chats, serpents et souris, sauterelles, mille pattes et bien d'autres encore, tous énonçaient fièrement le nom de leur géniteur. Le lion désespérait de trouver sa proie quand il vit, dissimulé derrière un arbre, Grand Mulet, qui essayait de se faire oublier. « Approche-toi, cachotier, et viens me parler de ton père. »
La pauvre bête suait de frayeur, tremblait de tous ses membres, et son cœur tambourinait dans son poitrail. Sa mère était une jument et son père, un âne. « Non, jamais je ne pourrai avouer devant tous mes amis que mon père est un bourricot, » pensait-il honteusement. Un silence pesant se fit dans l'assemblée. Le lion s'impatienta.
« Je t'ordonne de me répondre, grand mulet. Mon oncle est le cheval, ô roi, pour vous servir. »
Le roi des animaux se fâcha. « Je me moque de ton oncle. Je te demande de me dire qui est ton père. Parle ou je te dévore, séance tenante. » Face à l'imminence du danger, Grand Mulet eut une fabuleuse idée.
« Je crois me souvenir qu'à ma naissance, mon père a gravé son nom sous les sabots de mes pattes arrière. »
« Si c'est le cas, dit le lion en se tournant vers le chacal, je t'ordonne de lire sur le champ cette inscription. »
Rusé fit mine de déchiffrer le mot, mais bien vite il renonça.
Oh, « Je suis désolé, mon roi, mais les caractères sont minuscules et je n'ai plus les très bons yeux que j'avais autrefois. Et essayez vous-même, votre vue est perçante, ô roi, et bien meilleure que la mienne. »
Le lion avança. Le roi des animaux avait flairé le piège, mais devant tout son peuple attentif, il ne put faire autrement que de s'approcher des sabots du mulet.
« Venez plus près, dit le mulet plein d'espoir. Mon père avait une écriture si fine. »
Lorsque le lion fut à portée, Grand Mulet se cabra et décocha une puissante ruade sur le crâne du lion, qui fut assommé et ridiculisé. Et qui roula dans la poussière. Aussitôt, le chacal se jeta sur lui. Reprenant ses esprits, le lion bredouilla. « Hé, que fais-tu, rusé ?
Je m'attaque à celui qui est à terre, comme vous me l'avez enseigné, majesté.
Oh, je t'en prie, laisse-moi en vie, n'oublie pas que je suis ton roi.
À condition que vous renonciez à dévorer Grand Mulet, exigea le chacal.
Le lion promit, et il eut la vie sauve. Quant à Grand Mulet, il vécut en paix et plus jamais il n'eut la moindre honte à propos de son père. Somewhere
over the rainbow. Cette histoire s'appelle Câlin le malin. Si loin jadis que l'on a oublié quand, un veuf vivait avec son fils quelque peu benêt. Ce paysan cultivait une maigre terre aidé par un cheval qui était son seul ami. L'homme appréciait sa couleur baie et ses balzanes qui lui faisaient comme des courtes chaussettes. Il aimait aussi sa douceur et sa docilité.
Lorsqu'il labourait, il parlait à son cheval, qu'il avait appelé Câlin, et il lui racontait ses malheurs. Mais un jour, le paysan tomba malade. Ses forces l'abandonnant, il dut s'aliter. Et l'argent vint à manquer. À son grand désespoir, il demanda à son fils d'aller au marché de la ville, vendre Câlin. Il prit soin de lui préciser « Si l'on ne t'en offre pas un bon prix, échange-le contre une vache laitière, mon fils. Un tel troc nous sauvera de la famine. » Content, le garçon partit vers la cité. Arrivé, il s'établit sur le marché et bien vite, une paysanne vint lui demander le prix de son cheval. « Je ne veux pas le vendre, mais le troquer contre une vache. » La femme examina la bête, disparut et revint tirant une pauvre vache malingre. Le jeune homme fut satisfait de cet échange. Il allait repartir lorsqu'un vieil homme vint lui proposer une chèvre blanche à la place de sa vache. « Elle te donnera du lait crémeux à souhait, et de plus tu feras des fromages, de nombreux et succulents fromages que tu pourras vendre. Ainsi tu t'enrichiras sans cesse. » Le fils accepta et prit la corde de la chèvre lorsqu'une petite fille lui proposa son noix. « Alors que la chèvre n'a que du lait, mon noix te donnera des gros œufs bien gras et tu pourras encore préparer des omelettes onctueuses avec lesquelles tu te régaleras. » Alors le garçon troqua la chèvre contre l'oie. À peine la serrait-il dans ses bras qu'une jeune marchande lui proposa une poule noire. « Regarde comme elle est belle! Grâce à elle, tu auras des œufs, des poussins, des poulets et ton poulailler grouillera de coqs et de pondeuses. » Oh, heureux de cette nouvelle affaire, le benêt troqua l'oie contre la poule et quitta le marché. Il revint sans se presser, et tout au long du chemin, il chantait, satisfait de ses transactions. Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'arrivant à la ferme, il vit son père levé, en train d'atteler son cheval. Câlin, refusant de changer de maître, s'était immédiatement sauvé et était revenu auprès du paysan. Grâce au retour de son cheval aimé, celui-ci se sentit en meilleure santé. Le garçon resta stupéfait. Il raconta tous ses trocs et montra sa dernière acquisition. Sans se fâcher, le père lui ordonna d'aller rendre la poule à la jeune marchande, qui rendrait l'oie à la petite fille, qui rendrait la chèvre au vieil homme, qui rendrait la vache à la paysanne, qui avait échangé cet animal contre leur cheval. Ainsi, tout serait en ordre. Et ainsi Câlin, le beau cheval alezan, resterait à la ferme pour une longue vie auprès de son maître. What a wonderful world. Il est déjà temps de nous quitter. J'espère que vous avez aimé ces histoires de chevaux. Si vous voulez les réécouter, vous allez sur fréquence7.net et puis vous pouvez les réentendre. Sinon, on se retrouve le mercredi et le samedi à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, n'oubliez pas, racontez-vous des histoires.